Merci d'écouter la radio Okapi partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Vous écoutez en ce moment le magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Comment lutter efficacement contre les érosions en République démocratique du Congo? Vous savez, plus de 300 têtes d'érosion menacent les maisons d'habitation, les ponts et routes de certains quartiers de la ville de Kinshasa ainsi que d'autres villes du pays. Alors la situation s'empire pendant la saison des pluies. Après chaque grosse pluie, les têtes d'érosion avancent. Parfois, les sacs de sable que l'on place pour arrêter la progression et ces érosions ne donnent pas de bons résultats. Alors, quelles sont les techniques simples? Quelles sont les techniques qu'il faut appliquer pour lutter contre la progression des érosions dans nos différentes villes, à Kinshasa, à Kikwit, ainsi que dans d'autres villes à travers le pays? Nous avons déjà, nous allons en parler tout à l'heure avec l'ingénieur Guy Bungubeti, président du conseil d'administration de l'ONG Agir Alternatif. Avant cela, avant de le recevoir, nous avons déjà quelques auditeurs en ligne. Christian Mwamba nous appelle des Kananga, Jules Kazadi est à Lubumbashi et Miché de Mbujimayi. Vous avez des questions et préoccupations, composées 099-706-6394. Appelez déjà, le standard est ouvert. On commence avec vous, Christian Mwamba, des Kananga. Bonjour. Christian Mwamba, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux têtes d'érosion? Est-ce que la ville de Kananga est aussi menacée?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Les sujets d'aujourd'hui, c'est sur notre ville de Kananga, où il y a beaucoup d'érosion actuellement. Actuellement, ici à Kananga, sur toute l'étendue de la ville, il y a beaucoup d'érosion qui ronge même les habitats de la population. Au moment où je vous parle, dans toutes les villes, dans toutes les étendues, il y a beaucoup d'érosion. Mais faut-il faire pour lutter contre cela? À mon avis, je vois qu'il fallait d'abord commencer par une politique de participation communautaire. Et puis, il faut aussi l'urbanisation dans les processus de construction. C'est-à-dire qu'il faut répondre aux normes du pays. Et où c'est ça? Au moment où je vous parle, il y a beaucoup d'érosion, mais disons que les corporations, les forces qui passent, ils se sauvent des années, mais aucune solution pour les faire n'ont jamais été proposée.
Oui, la communication n'est pas très bonne, Christian. Veuillez peut-être vous déplacer un peu. Peut-être que ça peut s'améliorer. On vous entend pas très très bien.
Oui, je me suis déplacé. Je disais, ici à Kananga, les érosions rongent toute l'étendue de la ville. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de corporations, beaucoup de gens qui passent dans des quartiers, ils tirent des photos, mais aucun remède ou solution n'ont jamais été proposé pour cela. À mon humble avis, pour lutter contre les érosions dans les différentes villes de la RDC, il fallait d'abord commencer par une politique de la participation communautaire. Il faut inscrire aux gens dans le processus de construction, dans le processus de construction. C'est ce qui est de répondre vraiment aux normes prévues.
D'accord.
Dans les conditions qui ne sont pas prévues. Et puis, c'est notre gouvernement qui est de son droit de faire des canalisations dans les différents quartiers, les différents villes, des canalisations, des canalisations.
Oui, alors dites-nous, Christian, dans quel quartier de Kananga où il y a beaucoup plus de têtes d'érosion?
En tout cas, c'est la commune de Tatoka, le quartier de Tatoka, il y a beaucoup d'érosion. La commune de Kananga, le quartier de Tatoka, le quartier de Bianchi, le quartier de Lève. Donc, je m'en souviens, monsieur le journaliste, tous les quartiers, la liste est exécutée, tous les quartiers qui attendent là, il y a aussi des routes, il y a aussi des quartiers qui sont.
Merci beaucoup. Merci Christian. On vous entend difficilement, mais on retient que c'est dans presque tous les quartiers de la ville de Kananga qui a des têtes d'érosion. Jules Kazadi, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Alors, nous parlons de comment lutter efficacement contre les érosions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Oui, ici aussi, il y avait une pluie qui s'est abattue récemment sur les quartiers Annexe, les communes Annexe, quartier Nassirou, Kilobé Lobé, Kalebuka, tout ça. Donc il y avait une inondation terrible. Parce que j'ai un ami qui habite de ce côté-là. Il a toujours l'habitude de faire des courses à Katumbalesa Lubumbashi. Et heureusement, ce jour-là, il était lui-même sur place parce que il a une femme et deux enfants. Donc, la pluie s'est abattue à 0 h. Donc, tout le monde dormait. Et ils ont constaté que les dégâts, parce que leur mur de clôture était tombé.
Oui.
Parce qu'ils sont tout près d'une rivière, là, la Gumbe. Donc, la rivière était inondée complètement. Alors, il y avait de l'eau comme une fleuve, là. Donc, le mur s'est écroulé. L'eau est entrée juste dans leur maison, dans leur chambre. Heureusement, son mari était sur place. Il a fait les secours. Ils ont dégagé les enfants, bon, à vivre, donc les farines, les avis sont flottés dans l'eau. Ils ont perdu tout. Heureusement, ils sont partis chez les voisins. Donc, c'était terrible, monsieur.
Alors, Jules, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour lutter contre les érosions là-bas à Lubumbashi?
Bon, le problème, c'est on avait même fait les émissions contre les déchets non biodégradables, hein, les sachets, ainsi de suite, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons le canal construit par les Belges. Jusqu'à présent, ces canaux sont bouchés. Alors, il faudra que notre gouvernement puisse regarder et interdire les fabrications de sachets ou créer une entreprise pour commencer à transformer ces sachets-là à d'autres objets plastiques. Parce que quand nous vivons avec les sachets, c'est les sachets normalement de ces jours qui bougent les canaux. Et à l'époque de Moïse Katumbi, quand il était gouverneur, il y avait une brigade là d'assainissement qui était surmotivée en tout cas. Un groupe de 100% de son équipe. Mais ils travaillaient quand même, ils essayaient un peu de déboucher par-ci par-là. Mais pour l'instant, ils sont en train de faire, mais on ne voit pas leur efficacité. Alors, c'est pour cela que nous prions, nous demandons même à notre gouvernement de renforcer ces brigades-là et de mettre le public, les poubelles publiques.
Mm-hmm.
Il faut jeter les immondices dans des poubelles. Au lieu de jeter les sachets pour toutes les histoires en route et quand il pleut, tous ces déchets-là, c'est des verres dans des caniveaux.
D'accord.
Nous sommes en train de connaître ces genre de difficultés, monsieur Jody.
Merci à Jules Kazadi de Lubumbashi. Nous allons accueillir Miché de Mbujimai. Bonjour, Miché.
Bonjour, je suis Daniel.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces érosions qui menacent nos villes?
Oui, ici, à Mbujimai, il y a encore une situation préoccupante. Je vais d'abord prendre le cas de mon quartier où j'habite pratiquement à Tukondo. Il y a des érosions qui se présentent devant une école qui est privée. Ben, chaque fois après la pluie, il fallait voir comment est-ce que les enfants souffrent pour passer là-bas. Alors, ce qui n'est pas du tout bien, j'ai quitté mon quartier et allé encore dans un autre quartier. Je prends l'avenue, une grande avenue qui érige, qui a beaucoup de vie, l'avenue Tramézé. Cette avenue est pratiquement impraticable pour le moment. Par exemple, dans cette avenue, nous avions soit le gouvernement provincial amorcé les activités pour essayer de canaliser et d'arranger cette avenue. Mais les problèmes que moi je constate, c'est que nos avenues ne sont pas canalisées. Et l'eau, quand l'eau manque de la route, alors elle se crée elle-même une route, ou soit elle se crée elle-même des têtes, et c'est elle qui vient alors provoquer ces têtes des érosions. Ce que moi je peux d'abord dire, c'est quoi? Je constate qu'il y a, lorsque les érosions commencent par des petites têtes, c'est d'abord les responsables des parcelles qui environnent ces avenues, ou soit les responsables, les chefs des rues, ou soit les chefs des quartiers, qui devraient d'abord s'y mettre, prendre des mesures pouvant déjà prendre des précautions pour arrêter cela. Mais ce qui est malheureux, c'est que nous constatons que les gens laissent cela, ils attendent peut-être la plus jeune au niveau provincial, au niveau urbain,
oui.
Ce qui n'est pas du tout encourageant. Moi, je pense bien encourager d'abord les responsables des parcelles et les chefs de rue et les chefs de quartier à prendre certaines précautions pouvant améliorer la situation de nos routes dans la ville de Mbujimayi.
Merci Michel de Mbujimayi. Bob Tchala, vous êtes aussi dans la même ville. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux érosions Mbujimayi est aussi menacé. Hein.
Oui, je vais d'abord corriger, c'est Bob Tchula, non pas Zira.
Bob Tchula, d'accord.
Oui, d'accord. Oui. Je veux seulement dire qu'il faudrait commencer par savoir, connaître les causes de ces ravins. Vous voyez, quand on ne gère pas la gestion, quand on ne règle pas la gestion des eaux de pluie, ce sont les eaux de pluie qui nous créent des ravins. Ici, en Mbujimayi, permettez-moi de vous dire que c'est la capitale des ravins, parce que les eaux de pluie ne sont pas bien gérées. Là, on ne gère pas les eaux de pluie, l'eau se crée elle-même le chemin. C'est-à-dire, vous voyez ici en Mbujimayi, il y a des gens qui ont construit des grandes maisons avec des grandes toitures. Et quand ces toitures récoltent des eaux de pluie, ces eaux de pluie ne sont pas bien gérées. Et quand les eaux de pluie là tombent, elles se créent des chemins et elles créent des ravins. Donc, ce qui serait préférable d'abord ici, à notre avis, ici en Mbujimayi, il faut commencer par sensibiliser les gens qui ont des grandes maisons, qui ont de grandes toitures, de commencer à gérer cette eau de pluie-là. Je vais vraiment vous donner un exemple d'une église, je ne vais pas citer le nom de l'église ici, qui a une grande église qui a une toiture qui a plus de 500 mètres carrés, et plus de 50 mètres carrés. Mais toute cette eau tombe sur cette église-là, n'est pas bien gérée. Elle tombe sur la route. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la route, elle se crée. Donc il faudrait commencer par sensibiliser les gens qui ont de grandes maisons de gérer cette eau de pluie-là. Parce que si on ne gère pas, on va créer de son chemin, il fait des ravins. Et vous verrez dans certains quartiers, comme mon président vient de le dire, le quartier de Boudoula, l'aéroport de Mbujimayi est construit à un niveau un peu élevé par rapport à certaines habitations. Toute cette population qui tombe sur le tarmac de l'aéroport glisse vers le quartier Toubondo et la canalisation n'est pas bien faite. Ça veut dire que cette eau-là arrache tout sur son passage. Et c'est ce qui a créé un très grand ravin du côté là où il est, de Toubondo. Et c'est là, quand on dit tête d'érosion, ce n'est qu'une tête, mais si elle est déjà en progression.
Oui.
Et quand on cherche à l'arrêter, il faut d'abord commencer par canaliser les eaux de pluie qui viennent alimenter la matière de ravin, et éventuellement planter des arbres qui bloquent, qui se perdent le sable. C'est-à-dire, on peut planter des bambous, hein, à partir des érosions, mettre des civières dans les quartiers, essayer de casser le rythme, la vitesse de l'utilisation pour arracher les choses. Et comme nous sommes dans une région où c'est le sable est facile avec les eaux de pluie,
oui. On vous entend plus bien. Oui, la communication c'est détériore. Je sais pas pourquoi aujourd'hui la communication n'est pas très très bonne. Merci quand même d'avoir appelé Bol Tchula. On a retenu l'essentiel de votre communication. Monsieur Guy Bungoubeti, ingénieur Guy Bungoubeti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du conseil d'administration d'Agir Alternative. Vous avez suivi ces différents auditeurs. Soyez devant votre micro. Voilà. Comment lutter efficacement contre les érosions? C'est presque toutes les villes du pays qui sont touchées. On a entendu à Kananga, à Mbujimayi, à Kikwit, ici à Kinshasa. C'est encore grave. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre ces érosions?
Oui, effectivement, les érosions sont un grand fléau dans notre pays. Lutter signifie d'abord prendre en compte les causes de ces érosions. Parmi les causes, nous en avons qui sont naturelles et d'autres qui sont dues à l'action de l'homme. Mais l'action de l'homme qui inflige encore ou accentue les causes naturelles. Prenons l'exemple de Kinshasa, qui est une ville constituée d'une partie collinaire et d'une partie qui est en pente et d'une autre partie qui constitue la partie basse de la ville. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La zone collinaire reçoit les eaux de pluie. En situation normale, la végétation couvrait avant l'intervention de l'homme ces zones collinaires, de même que leurs versants. Mais l'homme intervient pour dénuder ce sol. Il construit. Il construit des habitations, il construit d'autres types de d'infrastructures d'utilité publique.
Sur ces zones collinaires.
Sur des zones collinaires. Mmh. Alors, de ce fait, il expose le sol au ruissellement des eaux de pluie. Ça, c'est de un. Mais, deuxièmement, du fait que l'homme construit, mais en durable, il y a des toitures, il y a des routes dont certaines sont cimentées ou asphaltées. Il réduit donc la surface d'infiltration des eaux et par conséquent, les quantités des eaux qui ruissellent sont augmentées. Et cela a un effet d'autant plus fort que le sol tel qu'ici à Kinshasa, tel est le cas également pour Mbujima, je viens de l'entendre dire, le sol est essentiellement sablo-argileux et donc meuble. L'impact de gouttes de pluie, mais surtout les ruissellements qui, quand il devient important, entraîne des matériaux, et c'est ça le phénomène d'érosion, notamment.
Vous avez suivi, Bob, tu l'as dit, les toitures collectent une grande quantité d'eau.
Tout à fait.
Et ces eaux ruissellent, ne sont pas bien canalisées.
Exactement, les toitures, les routes elles-mêmes également. Ben, voilà. Et ensuite, il y a l'action de l'homme. Il dénude, ben, il construit, sans une prise en compte considérable du phénomène d'érosion. À certains endroits, on a quand même pris certaines dispositions, telles qu'ici, dans la ville de Kinshasa. Il y a des caniveaux, il y a des collecteurs, il y a des égouts pour drainer les eaux de pluie. Mais qu'est-ce qu'on constate actuellement? C'est que maintenant, avec la croissance démographique, l'augmentation des surfaces construites, ces canalisations deviennent sous-dimensionnées. Les quantités des eaux qui passent par là ne sont pas celles qui avaient été prévues à l'époque. On n'a pas augmenté beaucoup de canalisations, beaucoup d'ouvrages de drainage d'eau. Mmh. Et ensuite, certaines canalisations sont plutôt mal construites, des pentes sont assez faibles. Quand la pente est faible, l'écoulement des eaux est également...
est important.
L'écoulement est faible et le dépôt des matériaux est important. Ce qui fait que finalement, le sous-dimensionnement dont je viens de parler s'accroît davantage. Alors, d'autre part... Et c'est là, excusez-moi le terme, la vraie bêtise humaine, ces caniveaux, ces collecteurs, nous les transformons tout bonnement...
En poubelle.
En poubelle, au vu et au su de tout le monde. Il y a même des citoyens qui se permettent de construire sur des caniveaux, les bouchons carrément, et ça ne dérange personne. Mais voilà le phénomène d'érosion que nous avons en amont... entraîne un autre phénomène en aval, celui des inondations, mais là n'est pas la question pour aujourd'hui. Mmh. Mais ce qu'il faut plutôt, c'est d'actualiser le réseau d'ouvrages de drainage des eaux.
Il faut commencer par là.
Il faut commencer
par là. Pour bien lutter contre les érosions.
Je pense bien. Mmh. Bon, il y a une série de mesures. Mais il faut d'abord refaire ces ouvrages. C'est-à-dire quoi? En construire là où il n'y en a pas. Et il y a beaucoup de spécialistes parfaitement capables d'indiquer où on doit les construire. Chaque rue, on a parlé ici de la gestion des eaux au niveau de chaque parcelle. Ok, d'accord. Mais quand vous prenez un ensemble des parcelles, vous êtes dans la rue et la rue,
ben, c'est quelque chose. Et nous connaissons, il y a des rues qui n'ont même pas des caniveaux.
Et c'est grave.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Que ce soit les eaux qui s'écoule à partir des eaux, des toitures des maisons, que ce soit des eaux qui s'écoulent à partir de routes elles-mêmes ou d'autres ouvrages, elles doivent être canalisées, drainées. C'est la première des choses pour éviter le phénomène d'érosion. Et ensuite, ben, il y a également des sites qui sont malheureusement déjà totalement soumis à ces phénomènes d'érosion. Là, il faut aller par la lutte curative. Il n'est plus possible de prévenir. Il faut maintenant...
Pour les sites qui sont déjà affectés par
les phénomènes d'érosion.
Par ces ravins.
Oui. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour ces genres de sites? La première des choses, c'est de freiner la croissance de ce phénomène d'érosion. Il faut freiner, donc il faut.
Mais souvent, on est dans les quartiers, on voit les gens utiliser des sacs, on met du sable dans des sacs et on va placer en forme d'escalier. Est-ce que ça, c'est vraiment efficace pour stopper les érosions?
Mais écoutez, c'est des méthodes que les gens emploient faute de mieux en termes de moyens, faute de mieux en termes de connaissances des techniques appropriées. Mais on peut le faire ainsi, ben c'est une efficacité éphémère d'abord. Et ensuite, ben enfin, chacun le fait à sa manière, dans son petit coin. Or, le phénomène d'érosion, ça n'est jamais causé par les eaux qui s'écoulent à partir d'une seule parcelle, à partir d'une seule rue. C'est un ensemble des eaux qui s'écoulent de part et d'autre, qui convergent, et à un moment, ça prend suffisamment de vitesse et donc suffisamment de force pour causer un ravinement, et l'érosion est là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est en fait gérer ces phénomènes au niveau de la ville. La ville peut effectivement impliquer des citoyens, mais il faut d'abord une grande sensibilisation. Parce que pour beaucoup, c'est comme, quelque chose face à laquelle on ne peut rien.
Les gens se sentent impuissants devant l'avancée de ces ravins.
On les voit même quitter une chambre dont une partie du mur est déjà dans les ravins pour habiter une autre partie, même la véranda de la maison. Mais ils sont impuissants. C'est l'État qui doit prendre.
Il y a des maisons qui ont déjà été englouties.
Et même avec des gens dedans. C'est l'État, finalement, qui doit prendre ses responsabilités en cette matière.
Mais au niveau de votre structure Agir Alternatif, bon, on a suivi tout à l'heure Bob Achula des mouvements. Il nous a dit qu'il faut bien gérer les eaux des pluies, il faut planter les bambous. Il a parlé aussi des vétivers. Alors au sein de Agir Alternatif, vous faites la promotion du vétiver pour stopper la progression des érosions. Parlez-nous de cette plante qu'on appelle vétiver et comment est-ce qu'on peut l'utiliser efficacement?
Ben, c'est une graminée, le vétiver, une graminée, c'est, enfin, appelons ça lingala, un manganga, comme les manganga, d'une manière générale. C'est une graminée, qui a des propriétés botaniques qui sont très intéressantes dans la lutte anti-érosive. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'abord de ces tiges. Ces tiges, donc sa partie aérienne, est constituée de petites tiges, mais qui sont assez solides et fermes, mais aussi dotées d'une certaine souplesse, qui leur permet, quand ils sont placés perpendiculairement par rapport à la courbe de... à la course d'un ruissellement, qui permettent donc de freiner la vitesse des eaux et permet ainsi de passer d'un écoulement à très grande vitesse qui permet aux eaux d'emporter les matériaux à un écoulement plutôt lent qui permet au contraire aux eaux de déposer le matériau. Et à part cette partie aérienne, c'est surtout les racines qui confèrent au vétiver des propriétés très intéressantes dans la lutte anti-érosive. Cette plante est dotée de petites racines mais qui sont tellement touffus et qui peuvent descendre jusqu'à 3, voire 4 mètres en profondeur dans le sol, et qui se développent dans un entrelacement tellement important qu'une souche de vétiver peut, au bout d'une année ou d'une année et demie, porter jusqu'à 60 kg des racines. Je parle là en termes de, racines débarrassées des sables, rien que des racines.
Alors, et ça stabilise les sols.
Cet entrelacement stabilise les sols. D'autant plus que les racines de vétiver ont aussi la propriété d'être très, très résistantes. Alors, c'est une plante que les agronomes ont utilisée après plusieurs expérimentations pour arriver à l'intégrer également dans la lutte anti-érosive. Elle offre, de ce fait, des avantages très certains. D'abord en termes de coût. Ça ne coûte presque rien de multiplier les vétivers et d'obtenir ainsi des souches de vétivers qui peuvent permettre de constituer une haie anti-érosive. Une haie, je l'ai dit tout à l'heure, qui est plantée dans le sens perpendiculaire par rapport à...
Est-ce qu'on peut dire que le vétiver est plus efficace que les bambous ou plus efficace que les pelouses, hein, qui permettent aussi de stabiliser les sols?
Oui, je pense bien, mais je pense surtout que le vétiver, dans les cas des érosions déjà déclarées, dans la plupart des cas, le vétiver est plus adapté. Tenez par exemple pour les bambous. Quand vous plantez les bambous à un endroit, ben, il devient l'espèce la plus dominante. Et vous ne pouvez pas planter les bambous aussi serrés qu'il le faut pour stabiliser totalement le phénomène d'érosion. Les bambous ont un certain effet d'une efficacité, éprouvée, mais pas autant que le vétiver. le bambou ne parvient pas, quand l'écoulement est assez important, de freiner complètement le ruissellement des eaux. Tandis que le vétiver peut arriver à stopper les eaux de sorte que là où il y a des vétivers, les eaux s'infiltrent dans le sol plutôt que de couler.
Et l'instant, ensuite, on va accueillir des auditeurs. Issa de Badengaïdo et Dieu merci de Bounia. Issa, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui est capté maintenant à Moutchaka grâce à la radio Amkeni Badengaïdo.
Alors, veuillez vous déplacer un tout petit peu pour peut-être que la qualité de la communication va s'améliorer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Est-ce que Badengaïdo est aussi touché par ce phénomène des érosions?
Badengaïdo n'est pas tellement touché, mais je voudrais signaler, je suis d'accord avec l'invité parce que les bambous, comme il a dit, les bambous, nous voyons parce que nous sommes ici sur la nationale numéro 4 et que nous voyons tout ce qui se passe avec les bambous que les Belges nous ont laissés. Les bambous, vraiment, comme on le vit, ce n'est pas des arbres qui, vraiment, ce n'est pas des plantes qui sont vraiment efficaces pour contre les érosions, parce que nous avons des preuves comme quoi ça n'existe vraiment pas, qu'il n'y a pas d'entretien de la route. Il y a des bambous plantés par-ci, par-là, sur le long de, dans tout au long de la nationale numéro 4, et vraiment, ça ne tient pas. Alors, merci pour l'invité, parce que au moins, il nous a donné d'autres plantes qu'on peut utiliser pour ça. Et la question de la question que j'ai, c'est savoir si la République démocratique du Congo contre les érosions, et si nous en avons, est-ce qu'on peut avoir les contacts pour qu'on puisse au moins les contacter? Si en tout cas, depuis Badengaïdo, vous êtes capté désormais à partir de la célèbre carrière de Moutchaka.
Merci, merci Issa. Bien, mais Dieu merci de Bounia et Mutombo, vous êtes à Mbujimayi. Dieu merci, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux érosions?
Cette émission est une rediffusion.
Dieu merci, vous êtes à Bounia, bonjour.
Et la ville de Mbujimayi, je vous prie pour qu'il y ait quand même un engagement donc venant aux dirigeants de la province qui puissent quand même s'engager pour qu'il y ait quand même une bonne révolution et la société va bien dérouler à propos de cette méthode-là.
Ouais, donc c'est Mutombo de Mbujimayi qui demande aux autorités de s'approprier de l'utilisation du vétiver pour lutter contre les érosions. Alors Monsieur Guy Bungubechi, dites-nous est-ce que vous avez déjà expérimenté le vétiver et quels sont les résultats obtenus après?
Oui, je voudrais rappeler que le vétiver a été introduit ici au Congo pour la lutte anti-érosive en 2004 par l'ONG américaine IREM. Et il y a eu des formations et il y a eu une expérimentation à grande échelle qui s'est faite à Kikwit. Les résultats étaient tellement bons.
À Kikwit?
Oui, à Kikwit, dans un ravin qui, un ravin très
mais
important.
Mais Kikwit est toujours menacé par les érosions.
Oui, tout à fait. Kipoumbeti. J'y arrive. C'était tellement, enfin, le succès du vétiver à Kikwit et le manque d'un programme de suivi de cette démonstration qui avait été faite a causé en fait l'échec du vétiver à Kikwit. Comment cela? Eh bien, les gens ont vu les effets du vétiver. Ils ont d'abord cru à la sensibilisation qui avait été faite. Ensuite, ils ont vu les effets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout de suite, tout le monde est descendu dans les ravins, dessoucher les vétivers qui venaient d'être plantés, qui n'avaient pas encore fini de démontrer totalement ces effets. Si bien qu'à la fin, l'érosion a repris ses droits.
Et pourquoi les gens sont allés dessoucher?
Parce que chacun a voulu
déraciner
pour protéger sa parcelle.
Sa parcelle, alors on va.
Son avenue ou son quartier.
Oh là vous voyez?
Alors, qu'est-ce que nous avons proposé par rapport à cela? Ce que nous avons proposé, c'est que chaque entité qui veut mener un programme de lutte anti-érosive doit d'abord commencer par installer une pépinière importante de vétiver. De sorte que le matériel soit disponible et pour des individus qui veulent le multiplier, mais également pour d'autres structures qui peuvent s'engager dans cette lutte anti-érosive. Nous l'avons proposé autant de fois ici pour Kinshasa, malheureusement cela ne s'est pas fait. Mais ensuite, Non seulement il faut que la population puisse disposer de souches de vétiver, mais il faut également enfin, un minimum de formation. Ça ne se plante pas n'importe comment, le vétiver. Je vous ai dit tout à l'heure que la technologie est ici non seulement des propriétés naturelles de la plante, mais également des essais qui avaient été faits pour qu'on arrive à trouver enfin, le principe à respecter, les pratiques qu'il faut. Des calculs sont faits, des calculs mathématiques assez poussés à ce sujet. Mais ils ont été ramenés à des pratiques très simples. Tout ce que nous avons cherché depuis tout ce temps, depuis 2005 en fait, c'est de trouver une structure qui puisse nous permettre de mener...
Et aujourd'hui, à Kikwit, il n'y a pas de pépinière où on a planté les vétivers pour permettre aux gens bon, d'aller recueillir cette plante ou d'aller répiquer dans, là où il y a des érosions.
En tout cas, c'était planté d'une certaine manière en respectant certains principes. Mais on a déraciné, le ravinement est revenu. Et les gens qui ont pris de cette manière-là n'étaient certainement pas ceux qui avaient suivi la formation et ne l'auraient pas fait. Mais les gens ont pris, ils ont planté n'importe comment. Si bien qu'on trouve des vétivers installés ci et là, mais sans grande efficacité parce qu'elle fait sans les méthodes qui conviennent.
D'accord, on va accueillir madame Viviane qui nous appelle des Kikwit. Merci de nous écouter à Kazamba, à Lukolela, à Lukemi. Madame Viviane, bonjour. Madame Viviane, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, on va la retrouver tout à l'heure. Madame Viviane, elle nous appelait des Kikwit, mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle va certainement nous rappeler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour lutter? Est-ce que on peut dire qu'il revient plutôt au gouvernement de pouvoir s'approprier du vétiver et de développer tout un programme autour de cela?
Oui, les cas des Kikwit est probant. Il y a eu une démonstration qui a été faite. L'ouvrage est resté. Il était question que la ville s'en approprie, protège d'abord cet ouvrage et multiplie des souches de vétiver pour d'autres maisons, multiplie également des formations. Ce qu'il convient de faire pour toutes les villes, pour toutes les entités qui sont sujettes à ces phénomènes d'érosion, je pense, c'est de non seulement disponibiliser le matériel végétal, les souches de vétiver, mais également de former des gens et de constituer des équipes qui peuvent arriver à mener de projets pilotes d'abord pour chaque ville, mais ensuite encadrer d'autres qui voudraient appliquer la technologie du vétiver dans leur milieu respectif. Ça, c'est fondamental. Il faut une structure. Il ne faut pas que ce soit des gens qui se l'approprient comme ça parce qu'il a vu planter de vétiver, il ramasse quelques souches, il vient le faire. Il le fera forcément mal. Et quand il le fera mal, l'érosion sera toujours là et on dira le vétiver finalement n'est pas si efficace que ça. Or, il a montré ses efficacités en plusieurs endroits et ailleurs, on ne parle plus.
Peut-être qu'il faut aussi impliquer les agronomes.
Oui, il faut impliquer les agronomes. Nous, les agronomes, nous savons ce qu'il faut faire. Chaque agronome a déjà suivi, lors de son cursus universitaire, une formation sur la lutte anti-érosive, la protection des sols. Mais en plus, il faut former des agronomes dans cette matière spécifique. Et ce n'est pas difficile pour un ingénieur agronome d'apprendre comment ça s'applique. Il en connaît déjà tous les principes. Mais il faut surtout installer des pépinières et former d'autres personnes dans l'application de cette technique. Il faut former aussi des agents, des services qui sont concernés par le phénomène d'érosion. J'ai parlé là du service d'habitat, je parle de l'aménagement foncier consort, constituer au sein de ces structures des unités de lutte anti-érosive, avec des cadres qui peuvent concevoir un programme, une action de lutte anti-érosive, mais aussi des ouvriers qui peuvent mener à bien toutes les tâches sur le terrain, pour installer par exemple une pépinière anti-érosive, appliquer l'entretien qu'il faut, nous pourrons y arriver assez facilement. Et une fois qu'on l'a fait à 1, 2, 3 endroits, mais la technologie pourra se propager d'elle-même comme une tache d'huile. Je répète qu'elle n'est pas du tout difficile à assimiler, elle est toute simple. Mais simplement, il faut avoir appris et disposer de matériaux végétaux.
Et à part la ville de Kikwit, où est-ce que vous avez expérimenté les vétivers?
Nous l'avons expérimenté ici aussi avec Vision Mondiale. C'était dans la commune de Kimbaseke. Une collaboration entre Agir Alternatif, Caritas Bureau Diocésain de Développement et Vision Mondiale. C'était une expérimentation plutôt à petite échelle. Le but était d'arriver à convaincre des autorités urbaines. ce n'était pas mener comme ça une lutte anti-érosive avec les quelques moyens que enfin Vision Mondiale a mis à la disposition du projet.
Un instant, ben, on va accueillir Madame Viviane qui était de Kikwit. Madame Viviane, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour les auditeurs de la radio Kakui.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre les érosions? Nous savons que la ville de Kikwit est beaucoup touchée par les têtes d'érosion. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, moi, j'ai dit que la solution réside dans un premier temps dans l'établissement de l'autorité de l'État. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si l'État fait sentir son autorité, on va lutter contre les lotissements et les constructions anarchiques qui sont causes de ces érosions et leurs têtes. Et aussi, on doit voir quel genre de maison faut-il construire sur l'emprise publique si cela est faisable. Agrandir les caniveaux existants. Que chaque parcelle retienne et canalise ses eaux de pluie et gère les déchets ménagers. Et enfin, l'auto-prise en charge de la population rangée par cellule ou par quartier en plantant la pelouse, les vétivers et lutter contre les difficultés au lieu d'en faire l'habitude.
D'accord. Donc, ce sont là vos propositions pour lutter efficacement contre les érosions. Merci d'avoir appelé Madame Viviane Kitete de Kikwit. Mohamed Zola, vous êtes à Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur Petit Daniel, et bonjour à l'invité.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre les érosions qui touchent aussi Mbujimaï?
Oui, ici à Mbujimaï, il y a d'autres régions. On fait tous les moyens de lutte pour que les érosions tiennent. Mais ça ne tient pas. Je ne demande rien pas à l'invité. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire dans tel cas? Et d'aider, je ne demanderai pas à M. Dodi Daniel Ngachamba, comme il est, il se débrouille trop, qu'il puisse m'expliquer un peu une érosion en tulle basse. Une érosion en tulle basse.
Bon, je n'ai pas très très bien compris. C'est quoi votre préoccupation, Mohamed?
Oui, ma préoccupation, c'est celle-ci. Je dis qu'ici, en Mbujimaï, il y a d'autres régions, on fait tous les moyens d'élite et ça ne tient pas. Hein?
Et pourquoi ça ne tient pas?
Oui, bon, c'est ce que je voudrais demander à M. Lévité, peut nous donner une solution efficace, comme vous avez dit qui est efficace.
D'accord, merci, M. Gibungu, ingénieur Gibungu.
Oui, Mohamed, ce qu'il convient de faire quand un ravin est déjà installé, qu'il a déjà pris une certaine dimension. Pour lutter, il faut d'abord éviter de l'alimenter à nouveau en eau. Cela signifie à ce moment-là qu'il faut détourner les eaux qui viennent dans les ravins, leur trouver. Enfin, il faut construire un ouvrage de drainage d'eau qui empêche que ces eaux ne viennent dans les ravins, sinon, ben, enfin, il va continuer à se creuser davantage. Ça, c'est de un. Et de deux, il faut aussi construire des ouvrages qui peuvent permettre de lutter contre ces ravins installés, enfin, si pas les combler, mais faire en fait en sorte qu'ils ne continuent pas à se creuser naturellement.
Mais il y a des ravins qui sont, c'est un trou béant dans le sol, et quand vous regardez ça, vous avez même des vertiges, c'est impressionnant, monsieur Bungoubé.
Ok, quand on en arrive là, le mieux à faire, c'est de ne plus construire sur un tel site. Il ne faut plus construire dans un trou, parce que vous allez recevoir des eaux et des matériaux qui viendront d'en haut. Mais ce qu'il faut faire en ce moment-là, malheureusement, dans pareil cas, il s'agit tout simplement de se déplacer. Il faut construire ailleurs et prendre des dispositions. Mais pour un tel ravin qui est déjà installé, des ouvrages en maçonnerie, en béton, peuvent permettre, pour un premier temps, une gestion efficace de tels sites. Mais ils sont d'un coût tellement élevé que, bien souvent, le déplacement de population, le déplacement des infrastructures, s'avère être la solution encore la moins coûteuse. Mmh. Et à ce moment-là, tel que nous l'avons fait à Kikwit en 2005, ce qui convient à ce moment-là, on peut planter de haies, des vétivers d'une manière conséquente, c'est-à-dire construire un nombre suffisant de haies et le doubler avec des matériaux pour protéger le vétiver en attendant qu'il prenne, de sorte que, puisque le ravin ne sera plus alimenté, on a construit des ouvrages en amont, puisque le ravin ne sera plus alimenté en eau en quantité importante, mmh. Et ben le peu d'eau qui passeront par les ravins seront retenus par les eaux, par les haies de vétiver, les matériaux se déposeront et le vétiver mettant encore à notre profit un autre une autre de ses caractéristiques avantageuses, c'est que au niveau de nœuds sur les tiges, des racines, quand ils seront bien remplis de matériaux, donc mm-hmm. de sol, des racines nouvelles pousseront et la plante croîtra avec la montée de matériaux. Et à ce moment, on peut arriver à, enfin, avec le temps, à combler un ravin. Avec le temps. Ça prendra d'autant plus de temps que le ravin est plus important. Mais déjà, je voudrais souligner ici que nous avons eu à expérimenter cette caractéristique du vétiver à Kimbanseke, mmh. où une rue qui était complètement coupée à deux a bénéficié des haies, c'était au quartier Sanga, je pense, si j'ai bonne mémoire, une rue qui était complètement coupée à deux, enfin, dans une rue qui était coupée à deux,
on a planté les vétivers et on a stabilisé les vétivers. Oui.
Et nous avons oublié parce que le projet n'avait pas prévu un accompagnement, un suivi après
d'accord.
projet.
D'accord. On va accueillir Kabundi de Mbujimayi rapidement. Kabundi, bonjour. Kabundi, vous êtes en ligne à Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Kabundi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Kabundi?
Oui, j'ai un témoignage à vous donner pour la ville de Mbujimayi, précisément au Kassai Oriental.
Oui.
Oui, en rapport avec les gros ravins Mbalawa Chitolo, qui, en ces derniers mois ici, il y avait des travaux, des remblements et des ponts là-bas. Bon, ces derniers temps, Mbujimayi, précisément au ravin Mbalawa Chitolo, il y a eu des grosses érosions. C'est comme si on a renforcé des érosions. Ça continue à faire pénétrer l'eau, des gros ravins continuent à se faire toujours à la place des Mbalawa Chitolo là-bas. Ils n'ont pas bien approfondi.
D'accord, il y a toujours des ravins là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les techniques utilisées pour stabiliser cette érosion des Mbalawa Chitolo?
Ah, bon, pour toute la ville de Mbujimayi, il faut canaliser. Il faut toujours qu'il y ait des canaux afin qu'on puisse éviter des érosions. Sinon, Mbujimayi doit être un stade des ravins.
D'accord, merci. Marceline nous a écrit, il serait mieux d'éviter les constructions anarchiques. Joao Dimwe, la première chose à faire, c'est éviter les constructions anarchiques. Voilà, il est à Kananga. Et puis Yves Massien, il nous dit, il serait mieux de déboucher tous les caniveaux de la ville pour faire couler les eaux des pluies rapidement quand il pleut. Hélène Biapacini de Kananga. On nous dit les services d'urbanisme et habitants ont accepté des constructions anarchiques sans tenir compte des inconvénients. Et voilà ce qui arrive après. Alors pour conclure, monsieur Guiboumoubet, on peut dire que le vétiver n'est pas la solution finale. C'est pour juste stabiliser les sols avant d'apporter des gros moyens pour lutter contre les érosions.
Non, je veux dire que le vétiver est une solution qui est très efficace quand des dispositions sont prises assez tôt dans la lutte préventive tout comme dans la lutte corrective. Mais je veux dire également que le vétiver, enfin, a ses limites. La première des limites, c'est que quand on n'a pas bien maîtrisé la technologie, ben, enfin, on n'arrivera pas à des résultats efficaces.
Alors, comme on est presque à la fin, un numéro par lequel on peut vous joindre après l'émission, comme ça, ceux qui sont intéressés par le vétiver pourront échanger avec vous.
Ils peuvent nous atteindre au 081 811 49 75.
75 081 811 49 75.
Oui, je dis une chose très importante. La précaution, la prise en compte du phénomène d'érosion est plus important que tout parce que ça frappe et des constructions anarchiques et des constructions faites tout à fait selon les normes.
D'accord. Merci, ingénieur Guy Bungoubeti, président du conseil d'administration de l'ONG Agir Alternatif. Merci et à la prochaine.